ma radio.
Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture.
De Villefranche à Tataouine. Et auditeurs de Caladma Radio, bonjour. Et on est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Couleurs du Monde. Et pour cette émission d'octobre, eh bien, on va entrer dans la vie d'un logothérapeute avec notre invité qui est Hervé. Bonjour Hervé.
Bonjour Emma.
Et à la technique, Jean-François.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Mais avant d'attaquer cette émission, eh bien, c'est l'heure de notre chronique Nuances du Monde. Mais c'est autour de qui aujourd'hui ?
Bah, je crois bien que c'est à toi, Emma, hein, non ? T'as fait ton travail ou
pas ? Ah ouais,
pas ?
C'est à moi ? Ah mais oui, c'est vrai. Ouais. Mais oui, t'as raison.
Et tu vas nous parler de quoi alors aujourd'hui ?
Eh bien, je vais vous parler d'un roman qui s'appelle L'Alchimiste de Paolo Coelho.
Un roman culte, il me semble.
Tout à fait. C'est un roman, en fait, dont le titre m'était familier depuis vraiment longtemps et que j'ai retrouvé, enfin rencontré par hasard récemment dans la bibliothèque d'un ami. Et donc, je me suis dit que j'allais vous le présenter.
Ok.
Ça commence comme ça. L'Alchimiste prit en main un livre qu'avait apporté quelqu'un de la caravane. Le volume n'avait pas de couverture, mais il put cependant identifier l'auteur, Oscar Wilde. En feuilletant les pages, il tomba sur une histoire qui parlait de Narcisse. L'alchimiste connaissait la légende de Narcisse, ce beau jeune homme qui allait tous les jours contempler sa propre beauté dans l'eau d'un lac. Il était si fasciné par son image qu'un jour, il tomba dans le lac et s'y noya. À l'endroit où il était tombé, naquit une fleur qui fut appelée Narcisse. Mais ce n'était pas de cette manière qu'Oscar Wilde termina l'histoire. Il disait qu'à la mort de Narcisse, les Oréades, divinités des bois, étaient venues au bord de ce lac d'eau douce et l'avaient trouvé transformé en urne de larmes amères. « Mais pourquoi pleures-tu ? » demandèrent les Oréades. « Je pleure pour Narcisse, » répondit le lac. « Ben voilà qui nous étonne guère, » dirent-elles alors. « Nous avions beau être toutes constamment à sa poursuite dans les bois, tu étais le seul à pouvoir contempler de près sa beauté. »« Narcisse était donc beau ? » demanda le lac. « Qui mieux que toi pouvait le savoir ?» répliquèrent les Oréades surprises. « C'était bien sûr tes rives tout de même qu'il se penchait chaque jour. » Le lac resta un moment sans rien dire. Puis, « Je pleure pour Narcisse, mais je ne m'étais jamais aperçu que Narcisse était beau. Je pleure pour Narcisse parce que, chaque fois qu'il se penchait sur mes rives, je pouvais voir au fond de ses yeux le reflet de ma propre beauté. » « Voilà une bien belle histoire, » dit l'alchimiste. Mais qu'est-ce que cette histoire de Narcisse vient faire là ?
Ouais, pourquoi il nous parle de Narcisse alors au final ?
Eh bien, en fait, il s'agit du prologue du roman. Et okay. Il nous parle bien d'un alchimiste ici. Hein. Finalement, c'est pour évoquer un autre livre, celui d'Oscar Wilde. Mmh. Un livre qui en cache un autre en quelque sorte. Hein. On en reparlera peut-être. Alors, lorsqu'on tourne la page, on peut lire première partie. Et là, eh bien, on dirait que l'alchimiste, en fait, ça commence comme ça. Il se nommait Santiago. Le jour déclinait lorsqu'il arriva avec son troupeau devant une église abandonnée. Le toit s'était écroulé depuis bien longtemps et un énorme sycomore avait grandi à l'emplacement où se trouvait autrefois la sacristie. Il décida de passer la nuit dans cet endroit. Il fit entrer toutes ses brebis par la porte en ruine et disposa quelques planches de façon à les empêcher de s'échapper au cours de la nuit. Il n'y avait pas de loup dans la région, mais une fois, une bête s'était perdue, et il avait dû perdre toute la journée du lendemain à chercher la brebis égarée. Il étendit sa cape sur le sol et s'allongea, en se servant comme oreiller du livre qu'il venait de terminer. Avant de s'endormir, il pensa qu'il devrait maintenant lire des ouvrages plus volumineux. Il mettrait ainsi plus de temps à les finir, et ce seraient des oreillers plus confortables pour la nuit. Il faisait encore sombre quand il s'éveilla. Il regarda au-dessus de lui et vit scintiller les étoiles au travers du toit à moitié effondré.
D'accord, alors qu'est-ce qui se passe ici ?
Eh bien là, vous voyez, en fait, je vous ai lu quasiment une partie entière. C'est un roman qui est découpé en plein de petits passages, comme des mini-chapitres, hein, bien qu'ils ne soient pas numérotés. Et qu'est-ce qui nous dit ce début de roman ? Eh bien que notre personnage principal, en fait, c'est un berger nommé Santiago. Et un peu plus loin, il va nous révéler que l'année suivante, il a rencontré la fille d'un marchand qui ne cesse de penser à elle. Et dans 4 jours, il va revoir cette jeune fille. Il va retourner en fait chez le marchand, parce qu'il voyage avec ses brebis. Et là, c'est le moment où il va la revoir. Mais je voudrais vous partager un autre passage, parce qu'on l'a un petit peu entendu au début, mais je voudrais mieux vous faire entendre l'aspect poétique du roman, et puis en même temps vous dire quelques mots encore sur ce berger. L'horizon se teinta de rouge, puis le soleil apparut. Le jeune homme se souvint de la conversation avec son père et se sentit heureux. Il avait déjà connu bien des châteaux et bien des femmes, mais aucune ne pouvait égaler celle qu'il attendait à 2 jours de là. Il possédait un manteau, un livre qu'il pourrait échanger contre un autre, un troupeau de moutons. Le plus important toutefois, c'était que chaque jour, il réalisait le grand rêve de sa vie, voyager. Quand il se serait fatigué des campagnes d'Andalousie, il pourrait vendre ses moutons et devenir marin. Quand il en aurait assez de la mer, il aurait connu des quantités de villes, des quantités de femmes, des quantités d'occasions d'être heureux. Et vous voyez que ici, j'ai oublié un petit bout, mais c'est pas grave, ça fait rien.
On est parti en Andalousie un petit peu.
Ouais, c'est ça. En fait, surtout, on voyait que c'est une écriture qui est très simple, en fait.
Oui.
Voilà, il n'y a pas de grande tournure. Et pourtant, il y a un côté très poétique dans ces descriptions. Voilà, de la poésie dans la simplicité.
Et ça nous fait voyager également.
Et ben, c'est ça. Alors, c'est peut-être ça, l'alchimie, je sais pas, hein, parce que cet alchimiste, finalement, ça n'a pas l'air d'être lui le personnage principal. Alors, peut-être, il faudra se poser la question, parce que en effet, hein, dans toute cette première partie, petit spoiler, mais qui ne gâchera rien en réalité, il n'est plus question d'un alchimiste, figurez-vous. On va suivre ce berger, qui part à la recherche de sa légende personnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, me direz-vous ? Est-ce que c'est son histoire d'amour avec cette fameuse jeune fille ? Eh bien, pas encore, parce que dans les pages qui suivent, le berger va voir une vieille gitane qui interprète les rêves, pour lui raconter un rêve étrange qu'il a fait 2 fois. Alors ce rêve est le suivant, un enfant le prend par la main, l'emmène au pied des pyramides d'Égypte et lui dit « Si tu viens jusqu'ici, tu trouveras un trésor caché ». Et il dit, hein, il poursuit, « Au moment où il allait me montrer l'endroit, je me suis réveillée, les 2 fois ». Alors la vieille femme, elle répond d'une manière tout aussi étrange finalement. Elle lui dit « Je ne vais rien te faire payer maintenant, mais je veux la 10e partie du trésor si tu la trouves. » Et ensuite, elle lui donne l'interprétation de son rêve. Alors voilà comment voilà ce qu'elle lui propose comme interprétation du rêve. Elle lui dit « Tu dois aller jusqu'aux pyramides d'Égypte. Je n'en avais jamais entendu parler, mais si c'est un enfant qui te les a montrées, c'est qu'elles existent en effet. » Là-bas, tu trouveras un trésor qui fera de toi un homme riche. » Et puis elle s'arrête là. Alors vous voyez que le berger, ben, il n'est pas plus avancé. Et puis il se met à songer. Il se met à songer aux raisons pour lesquelles il aime tant voyager. Et puis j'ai encore envie de vous partager un extrait que j'aime beaucoup et qui, je trouve, en même temps nous présente certaines vérités. Il dit « Lorsqu'on voit toujours les mêmes personnes, comme c'était le cas au séminaire, alors je précise que son père voulait qu'il soit prêtre. Il a préféré devenir berger. Mmh. Hein, donc lorsqu'on voit toujours les mêmes personnes, on en vient à considérer qu'elles font partie de notre vie. Et alors, puisqu'elles font partie de notre vie, elles finissent par vouloir transformer notre vie. Et si nous ne sommes pas telles qu'elles souhaiteraient nous voir, les voilà mécontentes, car tout le monde croit savoir exactement ce que nous devrions vivre. Mais personne ne sait jamais comment il doit lui-même vivre sa propre vie. » Intéressant, hein, les réflexions de ce berger. Il a l'air quand même d'en avoir un petit peu
Dans la caboche,
dans la tête.
Ouais.
Et puis, il se met à lire. Il se met à lire et un vieil homme s'approche de lui et insiste pour discuter avec lui. Et voilà ce qu'il lui dit, ce vieil homme. Il lui dit « Oh, ben, en même temps, ton livre, il n'est pas très intéressant parce que, et je cite, « c'est un livre qui parle de la même chose que presque tous les livres », poursuivit le vieillard. De l'incapacité des gens à choisir leur propre destin. Et pour finir, il laisse croire à la plus grande imposture du monde. Bah, « Et quelle est donc la plus grande imposture du monde ?» demanda le jeune homme surpris. « La voici. À un moment donné de notre existence, nous perdons la maîtrise de notre vie, qui se trouve dès lors gouvernée par le destin. C'est là qu'est la plus grande imposture du monde. Et puis, ce vieil homme, il lui annonce qu'il est roi de Salem. Et puis, il lui dit, en parlant de ses moutons, « Donne-moi un sur 10 et je t'apprendrai comment faire pour parvenir jusqu'au trésor caché. »
Alors sur là,
Santiago, il commence à écouter, parce qu'il se dit « Comment cet homme-là, sorti de nulle part, il peut connaître son rêve ?» Et puis, pire, le vieillard, il se met à écrire sur le sable avec une brindille. Et il écrit toute la vie du berger. Il parle de son père, sa mère, des brebis, des voyages. Et puis, il lui explique, alors ce dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, il lui explique que chaque personne a une légende personnelle qu'elle choisit de poursuivre ou pas. Alors, je vous en dis quelques mots de plus. Il dit « Cependant, à mesure que le temps s'écoule, une force mystérieuse commence à essayer de prouver qu'il est impossible de réaliser sa légende personnelle. » Ce que disait le vieil homme n'avait pas grand sens pour le jeune berger. Mais il voulait savoir ce qu'étaient ces forces mystérieuses. La fille du commerçant allait en rester bouche bée. « Ce sont des forces qui semblent mauvaises, mais qui, en réalité, t'apprennent comment réaliser ta légende personnelle. Ce sont elles qui préparent ton esprit et ta volonté, car il y a une grande vérité en ce monde. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, lorsque tu veux vraiment quelque chose, c'est que ton désir est né dans l'âme de l'univers. C'est ta mission sur Terre. » Donc, vous voyez, c'est ça la légende personnelle du jeune homme. Et il va même ajouter, « Et quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton désir. » Vous voulez savoir peut-être ce que c'est que la légende personnelle du jeune berger ?
Bah oui, au final.
Est-ce que c'est épouser la fille du marchand ou voyager avec ses brebis ? Peut-être trouver un trésor ? Mais au fait, l'alchimiste, il est où dans tout ça ? Eh bien, vous le saurez en lisant L'alchimiste de Paolo Coelho.
Merci beaucoup, Emma.
Galade. Les couleurs du monde.
Alors, nous revoilà en compagnie de Hervé, qui est logothérapeute. Et Hervé, tu as déjà participé à des émissions avec nous. Tu en as déjà fait deux. Alors du coup, on a choisi un axe un petit peu différent cette fois-ci. Hein. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se passe dans la vie d'un logothérapeute ? Du coup, dans une première partie, alors tu vas quand même nous faire un petit rappel de qu'est-ce que la logothérapie ? Et puis ensuite, on va parler de ton parcours, en fait. Pourquoi tu as choisi la logothérapie, finalement ? Qu'est-ce qui t'a amené à ça ? Et aussi, comment est-ce qu'on fait pour devenir logothérapeute ? Et puis, on ira un peu plus dans la pratique en se demandant, mais finalement, une séance de logothérapie, comment ça se passe ? Et pour terminer, on verra, c'est pour qui, finalement, la logothérapie et quelle méthode tu peux utiliser pour quelle problématique hein, et ce que ça apporte. Tu es d'accord, Hervé ?
Oui.
Super.
Annonce du plan.
Tout à fait. Je suis prof quand même un peu. Hein. Ah, oui. Alors du coup, allons-y pour la première partie. Qu'est-ce que c'est que la logothérapie ? Est-ce que tu peux rappeler à nos invités, parce qu'elles sont un peu anciennes les émissions, mais si on ne doute pas, chères auditrices et auditeurs, que vous avez avec attention écouté Hervé déjà, fais-nous un petit rappel.
Et révisé.
Oui, bien sûr. Mais bien sûr qu'ils ont révisé.
Alors, la logothérapie en 5 minutes. Il y a Viktor Frankl, donc le fondateur de la logothérapie, qui a écrit un petit livre que j'ai rouvert ce matin. Et en fait, le livre, il fait combien de 160 pages.
D'accord.
Mais j'ai remarqué qu'il y a un passage qui s'appelle « La logothérapie en bref » et c'est 30 pages.
Ah oui.
Donc, à la limite, vous pourriez ne pas écouter cette émission et lire les 30 pages, ça prendrait à peu près...
Et on va lire les 30 pages, ok, ça marche.
Et ce serait avec des mots beaucoup plus justes que les miens.
Ouais, mais tu vas quand même nous faire un bon petit résumé.
Eh oui, parce que comme on t'a invité, Hervé, c'est que c'est toi qu'on a envie d'entendre et on voudrait bien ta version de la chose.
Ce sera la logothérapie et puis moi, logothérapeute.
Quoi. Eh oui.
Ouais. Alors, logothérapie, pourquoi ? Le logos, c'est un mot grec qui veut dire sens ou bien raison ou bien parole.
Oui.
Et puis thérapie, c'est prendre soin. Thérapeo, en grec, c'est prendre soin ou soigner. Donc la logothérapie, c'est d'aider les personnes par la recherche de sens. on s'appuie sur une croyance en logothérapie, c'est que toute personne est à la recherche de sens. Cette croyance, elle ne vient pas nulle part. Viktor Frankl, c'était un médecin psychiatre et qui a observé dans sa pratique que c'était vrai, que toute personne est à la recherche de sens.
Bah, c'est un peu sa légende personnelle, non ? Mais finalement, je suis en train de me dire...
Ça se rejoint un petit peu.
J'ai choisi par hasard ce roman, mais enfin, il y a quand même quelques points d'accointance.
Ben, je me suis vraiment posé la question quand je t'écoutais.
Honnêtement, non, c'était le hasard absolu.
Ah, c'est impressionnant.
C'est vrai, ça parle.
La quête d'une personne... en l'écoutant, alors moi je me suis dit, la légende de cette personne, en fait, oui, ça. Pour la logothérapie, en fait, enfin moi, je crois pas qu'on soit appelé à quelque chose de précis.
Oui.
Notre légende, elle s'invente en fait avec la réalité.
On l'a choisie.
Et donc, voilà, je pense pas qu'on soit destiné à quelque chose. Par contre, on porte des choses en soi, au profond.
Oui.
Et notre chemin, il se trace aussi avec ce qu'on ne choisit pas. Voilà.
OK.
Donc, toute personne est à la recherche de sens et chacun essaie de trouver sa propre réponse à la question du sens de la vie. Alors, ça ne veut pas dire que quand on prend le petit-déj ce matin et qu'on choisit entre café ou chocolat chaud, on se pose la question, quel est le sens de ma vie ? Mais cependant... lorsqu'on choisit chocolat chaud ou café, il y a sans doute des raisons. Soit parce qu'on veut rester réveillé. Pourquoi on veut rester réveillé ? Parce que ce matin, j'ai un cours difficile. Et en fait, la question du sens de la vie, c'est une question à laquelle on répond concrètement. Par les actes, par les attitudes. Ce n'est pas une question intellectuelle en disant voilà mon sens de la vie, donc je vais prendre le café ce matin.
En fait, la logothérapie, ce n'est pas de la philosophie. On ne va pas se questionner 107 ans. On va vraiment en acte et en concret réfléchir sur ce qui nous correspond dans le réel.
Oui. Sans masturber le cerveau.
Très bien.
Et donc là, il y a une citation de Frankl qui me vient, c'est « La question du sens de la vie est une question qui se pose seulement concrètement et on y répond par nos actes.
» Ok.
Il nous reste combien de temps, là, sur cette partie ?
Sur cette partie, pas trop longtemps.
Je vais aller vite.
Mais après, tu peux encore nous dire quand même quelques mots.
Oui, parce que voilà, je bavarde. Quotidiennement, qu'est-ce que tu choisis de faire ou de ne pas faire ? Alors, la question du sens de la vie, c'est des choix quotidiens comme le café ou le chocolat, mais c'est aussi des choix plus importants d'orientation. Quelles sont mes priorités ? Comment je vais faire mes choix de mes engagements ? Ça, c'est des choix plus importants.
De travail, par exemple ?
De travail.
Si on parle de choses un peu concrètes.
Mais pas seulement.
C'est-à-dire, dans la semaine, qu'est-ce que je vais faire ? Vous avez décidé de venir ici à la radio, enregistrer. Voilà, vous pouviez faire autrement. Vous pouvez bâcler ta préparation, l'as faite. Voilà. Je ne dis pas qu'on est entièrement libre, parce qu'il y a des fois, notre conscience professionnelle, notre culpabilité nous fait prendre des décisions. Mais il n'y a pas que la culpabilité. Il y a aussi une vraie décision personnelle. Tout ça, c'est mélangé. Et donc, en logothérapie, on considère que la personne, elle est libre. Voilà, elle est libre. Il y a une part de liberté. Si vous êtes là, c'est parce qu'il y a une part de vous qui a choisi librement.
Bien sûr.
Tu disais, Jean-François, je le fais pour rendre service.
Oui.
Voilà. Il y a une part de liberté dans cette décision. Voilà. Et puis, ce qui va avec la liberté, c'est la responsabilité. C'est-à-dire qu'on répond à la question du sens par les actes que l'on pose.
Voilà. OK. Bon, ça me paraît pas mal, déjà, comme définition.
Comme base, pour commencer, là, c'est bien. Et on va revenir maintenant sur ton parcours.
Eh oui, tout à fait. Alors, déjà, en premier lieu, pourquoi est-ce que tu t'es intéressé à la logothérapie ? Comment t'en es arrivé là ?
Et comment, c'est surtout ce qui m'intéresse.
Alors, comment je me suis intéressé ? Je dirais par hasard, pour autant qu'on croit au hasard. En fait, je ne pense pas qu'il y ait du hasard dans cette affaire-là.
Ouais.
J'allais voir un moine de temps en temps. Et puis, pour discuter avec lui. Et puis, un jour, il avait ce bouquin de Frankl que j'ai amené là, qui s'appelle « Nos raisons de vivre ».
Qui a l'air plus épais que le premier, quand même.
À l'école du sens de la vie, Et il m'a dit « Tiens, Hervé, je pense que ça peut t'intéresser. »
Oh.
Voilà.
Ouais, c'est pas tant un hasard que ça quand même, parce qu'il te connaissait, ce moine.
C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mmh. Mais disons qu'il y avait la surprise que je ne m'attendais pas
À recevoir forcément un ouvrage.
Ouais, c'est ça. Et voilà, il me dit je te conseille de lire ça. Et alors, c'est la réalité, donc je le dis. Le jour même, je rentre chez moi en voiture, j'allume la radio, et à la radio, il y a une logothérapeute qui a été interviewée.
Ah oui. Ouais.
À l'époque, en 2011, alors un signe, je ne sais pas. En 2011, des logothérapeutes, il y en avait 25 en France.
Ah oui.
Oui, donc c'était quand même assez incroyable.
Ouais. Alors là, je me suis dit, ah tiens, il y a... Enfin, je l'ai vu comme... comme
moi, j'ai l'impression que ta légende personnelle, elle t'a appelé un peu quand même. Hein.
Voilà, donc comment j'y suis arrivé? Bon, ça a été ça. Je suis allé rencontrer cette logothérapeute, qui s'appelle Martine Saleron, à Lyon.
Okay.
Et je lui ai dit, j'ai deux questions à vous poser. La première, c'est est-ce que vous voulez bien m'accompagner, parce que j'étais en recherche de ce que j'allais faire. J'étais bien enseignant, quoi, mais je sentais bien que ça ne me satisfaisait pas complètement.
Oui, tu avais envie de faire autre chose.
Il y avait une autre dimension à
explorer. Explorer, oui. Ouais.
Donc, c'était la première question. La deuxième question, c'est comment on devient logothérapeute? Alors, elle m'a dit, je vais commencer par la deuxième, qui est plus simple. Et ben voilà. La formation consiste en 9 modules d'une semaine, supervision, intervision, un mémoire. Enfin voilà, elle m'explique en 2 minutes.
Ok, alors tu nous l'expliqueras de façon un peu plus détaillée.
Et puis la deuxième, elle dit je veux bien vous accompagner. Et donc.
C'était pas si compliqué finalement.
Ben oui, mais ça a pris plus, la réponse concrète a pris plus de temps.
Oui,
parce que
tu viens de nous la résumer.
J'ai commencé la formation en 2016. Donc je suis allé la voir en 2014.
D'accord.
J'ai commencé la formation en 2016 et je l'ai terminée en 2022.
Et tu as pu faire cette formation tout en étant enseignant?
Oui, ouais. Okay. On en est où au niveau timing? On a encore du temps?
On est pas mal, on va pouvoir bientôt vous faire la première pause musicale. Qu'est-ce que vous en pensez?
Eh bien oui, écoute...
Est-ce que j'ai répondu à votre question?
Oui.
On
tout
a bien
fait.
Compris qu'il y avait un chemin quand même.
Ouais. Alors si j'ai envie de dire une chose en plus, c'est que il y a deux choses qui sont importantes pour moi dans ma vie. C'est de chercher... et d'aider.
Ok.
Voilà. C'est deux flèches qui sont importantes. Ah. Et comme
j'ai
enseignant.
J'ai l'impression qu'elles se rejoignent bien dans la logothérapie, c'est de.
Et comme enseignant aussi.
Comme enseignant aussi, ce que j'allais dire. Déjà, tu l'avais déjà trouvé comme enseignant.
Oui, ouais, tout à fait. Tout à fait. Et même avant, enfin, si j'ai fait des études de physique, c'est parce que je voulais comprendre.
Oui.
Et ensuite, j'ai fait épistémologie des sciences, c'était aussi pour comprendre.
Oui. Ouais.
Et voilà.
Tu as fait philo aussi.
Aussi. Donc voilà. Et maintenant, j'allie les deux, comme tu dis, de chercher et d'aider.
On va passer du coup à la première pause musicale.
Ouais.
C'est parti.
C'est parti. Thank you.
êtes toujours sur Caladma Radio. On est dans l'émission Les couleurs du monde. Et nous parlons pour cette émission d'octobre de logothérapie. Alors, je vous rappelle que dans la première partie, Hervé nous a rappelé ce qu'était la logothérapie et puis nous a aussi expliqué pourquoi est-ce qu'il s'était dirigé dans cette voie vers la logothérapie. Mais du coup, Hervé, on a écouté une musique, il me semble, c'est toi qui l'as choisie. Tu peux nous dire un peu ce que c'est et pourquoi tu nous as proposé cette musique ?
Pour la même raison que les deux émissions précédentes, donc je te laisse dire pourquoi, si tu as révisé.
Eh bien, parce que tu fais de la flûte.
C'est vrai,
et bravo. Et du coup, forcément que tu aimes la flûte irlandaise, puisque c'était un morceau de flûte irlandaise. Alors, tu peux nous dire de qui ?
Donc, je joue de la flûte irlandaise. Voilà, oui. Ça, c'était une gigue, c'est une suite de gigues. Mmh. Et c'est une autre valeur pour moi, la musique. Voilà, c'est quelque chose... Dans les aléas de mon existence, c'est une constante, on appelle ça une flèche,
okay.
Voilà. C'est un fil rouge.
Très
donc,
bien.
Je sais que, quel que soit ce qui m'arrive...
Tu auras la musique.
La musique sera présente, et si la musique est présente, ça sera une ressource pour moi. Voilà.
Super.
C'est ce qu'on appelle une valeur aussi.
Voilà. Okay. Voilà. Alors, c'était un morceau qui s'appelle Christy Barry's Set,
ouais,
de Kevin Crawford.
Ouais. Kevin voilà. Crawford, c'est le flûtiste que vous avez entendu,
ouais.
Qui est, enfin, c'est un merveilleux flûtiste. Si vous attendez le, enfin, c'est comment dire, c'est il y a une inspiration, il y a une énergie, voilà.
Ouais,
moi, ça me touche, voilà. Sur le titre lui-même, je peux pas en dire plus, mais voilà.
Ouais, ce morceau-là, il te touche.
Il me touche, il m'emporte, quoi. C'est,
ouais,
okay. Ça me donne.
Ça donne de l'énergie.
De l'énergie.
Chouette. Bon, voilà. Et ben alors justement, avec ton énergie, comment tu as fait pour devenir logothérapeute ? Comment on fait ?
Ah oui.
Comment j'ai fait pour devenir logothérapeute ? Ils voudraient devenir logothérapeute.
Alors,
tu avais commencé par parler de formation
sur plusieurs années. Donc, comment on devient logothérapeute ? Donc, moi, j'ai commencé en 2016. J'ai fait mon premier module. Mmh. En fait, il n'y a pas une seule réponse à ça, parce qu'il y a plusieurs écoles.
Mmh. D'accord.
Moi, j'ai fait l'école je ne savais pas qu'il y en avait plusieurs à l'époque. J'ai fait qui s'appelle le réseau de logothérapie.
D'accord.
Voilà, qui se passe, c'est en deux cycles. Un premier cycle qui un module A, B, C, D, E, F, G, donc...
Oui, ça fait sept modules.
Sept modules, okay. Voilà, sept modules d'une semaine. Ensuite,
une semaine pour chacun.
Oui, une
d'accord.
Semaine bien chargée.
Une grosse semaine, d'accord.
Ouais. Elle dit que, celle qui fait la formation, elle dit que c'est 50 heures de travail. Bon, c'est peut-être pas 50 heures, mais c'est pas
okay,
moins.
Ok, ouais.
Ensuite, il y a un mémoire de logothérapie, où moi je l'ai fait sur logothérapie et co-développement professionnel.
Parce que le co-développement
professionnel. Je m'en souviens parce qu'il me semble que je l'ai relu.
Ah oui, c'est vrai, tu as relu le mémoire et on a aussi fait du co-développement professionnel.
Et puis on a fait du co-dev ensemble, tout à fait.
Donc, tu es partie prenante dans cette aventure. le mémoire. Et puis ensuite, le premier cycle, il est théorique. Voilà, c'est pour poser les fondements de la logothérapie, donc, qui a été fondé par Viktor Frankl. Mm-hmm. C'est bien que j'en dise deux mots. Donc, c'est un psychiatre autrichien qui est né en 1905 et qui est mort en 1997. Mm-hmm. Qui était très bon. Déjà, un jeune homme précoce, un très bon médecin. Qui s'intéressait à plein de choses. Et puis, il n'était pas connu. Il avait une très bonne pratique, mais il n'était pas connu plus que ça. Et puis, il a été en camp de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale.
D'accord.
Et pendant le camp, au retour du camp, il a décrit l'expérience du camp du point de vue d'un psychiatre.
Mmh. D'accord.
Je ne sais pas si vous connaissez Germaine Tillon, qui est une sociologue.
Oui, bien sûr.
Elle faisait des conférences de sociologie dans les camps. Elle faisait des conférences à ses collègues.
Elle formait un peu ses collègues.
Sur la sociologie. Geneviève de Gaulle, elle raconte ça.
Ouais.
Et bien, Viktor Frankl, il a écrit ce petit livre-là qui aujourd'hui s'appelle « Découvrir un sens à sa vie », mais à l'époque, c'était un psychiatre déporté témoigne. et qui l'a fait connaître aux États-Unis, qui l'a fait connaître dans le monde entier.
Okay.
Et c'est à partir de là qu'il a été connu mondialement, et donc ses livres ont été publiés.
Eh bien, ça doit être comme ça que je le connais, alors, moi, je pense, par cette expérience
Des camps. Et donc, dans ce petit livre que je recommande à tous, hein, « Découvrir un sens à sa vie », plus de la moitié du livre, c'est la description de ce qui se passe en camp, les états psychiques par lesquels passe un détenu.
Ça doit être hyper intéressant.
C'est intéressant.
Par contre, ça doit être dur. Hein.
Et il dit aussi comment la logothérapie a pu aider les détenus. C'est-à-dire que je vous disais que la logothérapie, elle a été à l'épreuve de son expérience clinique, mais aussi à l'épreuve de cette expérience extrême des camps.
D'accord.
Il a observé que ce qui tenait les gens en vie, c'était leur quête de sens.
Okay.
C'était pourquoi est-ce que je veux continuer à vivre.
Ouais, d'accord. Okay.
Lui,
qu'est-ce qui me tient en vie, quoi.
Ouais, qu'est-ce qui me tient en vie, exactement. Ouais. Nos raisons de vivre.
Ouais, en fait, le fait d'être dans une situation extrême, ça pousse. Enfin, je dirais que ça rend peut-être plus visible cette quête de sens que dans la vie courante, où on n'est pas acculé comme ça
à
devoir s'accrocher à quelque chose.
Je ne suis pas sûr.
Ah ouais.
Parce qu'il dit quand même que la majorité des gens ont vécu misérablement cette expérience. Le sens de la vie n'était pas très visible.
Oui,
en fait.
Mais ils sont quand même restés en vie. Ils ont
certains,
tenu.
Oui,
enfin,
certains.
Je sais bien qu'il y a eu des suicides dans les camps, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont tenu.
Ce que Frankel a dit, les meilleurs d'entre nous, ils sont restés.
Oui, ok. Okay.
Toi. Donc oui, il se met pas dedans.
On a quand même souvent cette réflexion des survivants à se dire pourquoi moi, quoi. Pourquoi moi j'ai survécu et pas les autres.
Ouais.
C'est vrai qu'il y a ce sens, un peu cette recherche de sens.
Alors ils peuvent se poser la question. En tout cas, les personnes qui sombraient, il l'explique, hein, qui sombraient, qui fumaient leurs cigarettes, il disait en fait, il a plus de raison de vivre, et donc le lendemain, il faisait partie des personnes qui étaient décédées.
Ouais.
Et lui, il a tenu. Mais je veux dire, il s'en glorifie pas, quoi. Il dit que s'il a tenu, c'est parce qu'il a fait des coups bas aussi. Enfin, il le dit pas comme ça.
Mais bien sûr.
C'est souvent ce qu'on a dans les témoignages, effectivement.
Bien sûr.
Donc voilà, c'est authentique. C'est vraiment. Je recommande la lecture. Et donc, c'est dans ce petit livre qu'il y a les 30 pages, là, où il dit la logothérapie en bref.
D'accord.
Et vraiment, c'est très éclairant. Hein. Alors, la question, c'était...
Comment dire logothérapie ?
J'y ai répondu ou pas ?
En partie, parce que
oui, tu es arrêté sur la partie théorique.
La partie théorique, premier module, et puis on voudrait bien la suite,
théorique,
du coup.
Ensuite, le mémoire, donc là, que je fais. Et puis après, c'est la partie plus pratique, donc il n'y avait que trois modules.
Mm-hmm.
Et puis, ce qu'ils appellent l'intervision-supervision. Donc, en fait, on accompagne 10 personnes et on écrit un dossier de cas, d'études de cas.
D'accord.
Où on rend compte de notre pratique.
Sur ces 10 personnes ?
Sur ces 10 accompagnements.
D'accord.
Voilà. Et puis, pendant... en fait, l'étude de cas, on l'écrit après avoir vécu une supervision.
D'accord.
Sur ce cas-là.
Donc, tu as aussi une démarche réflexive sur ton analyse des personnes.
Oui, c'est ça. Donc, et donc, la supervision et l'intervision, parce qu'il y a la moitié avec un superviseur et la moitié entre nous, nous permet aussi de continuer nos accompagnements.
Bien sûr.
C'est-à-dire que ça nous donne des idées, ça nous donne des pistes. Et puis, à la fin, on rend compte de cette pratique de nos découvertes, de nos questions.
D'accord.
Dans un... C'est pas un mémoire, mais c'est un dossier de cas.
Voilà. Oui, oui.
Et puis, donc, au terme de ce parcours, la personne nous dit si on est apte à exercer.
À exercer ou pas. Ok, très bien.
D'accord.
Et donc, on en arrive à notre troisième partie, et la pratique, final.
Une séance de logothérapie, ça se passe comment ?
Alors, c'est difficile de répondre à la question. C'est comme si je te posais la question, un bon coup d'échec, ça se passe comment ? En fait, ça dépend,
ça dépend beaucoup d'éléments, quoi, finalement.
Ça dépend beaucoup d'éléments.
Alors, c'est pour ça qu'on se disait un cas pratique, peut-être tu pourrais...
Je peux faire un cas pratique.
C'est ça,
alors, la première chose que je veux dire, c'est donc, avec cette réponse-là, la logothérapie, c'est pas une technique.
Oui.
C'est un art.
Mm-hmm.
D'accord, déjà.
Ce qu'apporte la logothérapie, c'est d'abord une vision de l'homme, de la personne humaine, qui est libre et responsable. C'est-à-dire que, à mon avis, ce qu'apporte la logothérapie de plus important... c'est comment la personne va être regardée. Elle va être regardée sous l'angle de sa liberté et de sa responsabilité.
C'est ce que le logothérapeute va lui renvoyer, c'est ça que tu dis ?
Oui, enfin, on peut dire ça.
C'est
mais
comme
c'est surtout
ça que le logothérapeute va la voir.
C'est comme ça qu'il va se positionner, lui. C'est-à-dire
la personne.
Un psychologue, par exemple, il pourra voir les conditionnements.
Oui.
Il pourra dire, ah ben, il agit comme ça parce que...
Oui.
Le logothérapeute, il ne va pas se positionner comme ça. Son apport spécifique, ça veut dire, ça va être, j'ai en face de moi une personne qui a la recherche de sens.
Oui.
J'ai en face de moi un musicien qui a une musique unique à jouer.
Oui.
Son instrument, il est abîmé, mais il a une manière unique de jouer sa musique. Voilà. Ce qu'apporte la logothérapie, c'est vraiment ce regard-là sur
d'accord.
la personne.
Ouais, oui.
Voilà.
Son individualité, finalement.
Oui, tout à fait.
Ok.
Ouais, tout à fait. Alors, j'ai écrit un cas fictif. Peut-être que je n'ai pas prévu de dire ça, mais peut-être que c'est intéressant. Puis on verra, on se laisse conduire par
Oui, bien sûr.
Si ça peut aider à comprendre.
Oui, je pense que ça,
pense que ça peut aider à comprendre.
Alors, bien sûr, en fait, je ne pourrais pas tout dire. Hein. Voilà,
oui,
je ne pourrais pas
grave.
Tout dire, mais voilà, c'est pas grave. C'est un cas qui, je pense, qui représente bien ce qui peut se passer en logothérapie. Donc, je vous dis une situation. Un homme va voir un logothérapeute parce qu'il a le projet de divorcer, mais il n'est pas tout à fait sûr de sa décision. Il est marié depuis 20 ans. Ils ont 3 enfants de 10, 13 et 16 ans. Et il voit les conséquences d'un divorce si il prend cette décision. Vendre la maison, envisager la garde des enfants. Sa femme a eu plusieurs relations extra-conjugales, puis elle est revenue à chaque fois. Elle lui a beaucoup menti. Et donc maintenant, il n'arrive plus à lui faire confiance.
Ok.
Et elle, de son côté, elle lui dit qu'il ne fait pas assez attention à elle. Ils n'ont jamais fait de thérapie de couple. Donc lui, il est prêt à divorcer, mais il y a quelque chose au fond de lui qui ne souhaite pas le divorce.
Okay.
Mais en même temps, il ne voit pas d'avenir avec... Sa femme, parce qu'il lui fait plus confiance.
Okay.
Sa femme a renoncé à sa dernière relation extra-conjugale pour revenir vers lui.
D'accord.
Voilà, elle a pris cette décision-là.
Mm-hmm.
Mais lui, en plus, il a rencontré une autre femme, et ça se passe très bien avec cette autre femme depuis quelques mois. Donc, il vient voir le
thérapeute
pour...
Okay.
Pour
pour y voir plus clair.
Ouais. Pour y voir plus clair, sans doute pour y voir plus clair. Mm-hmm. En tout cas, peut-être pour confirmer sa décision aussi. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui le fait hésiter.
Ok.
Donc, d'un point de vue psychologique, on peut se dire, il n'arrive pas à prendre de décision, cet homme-là. Donc, je vais l'aider à prendre une décision. Je vais l'aider à dépasser sa peur des conséquences de son choix pour être plus libre. Autrement dit, le soulager de son conflit intérieur. Alors... Viktor Frankl parle de l'homéostasie. Viktor Frankl, il a été élève de Freud.
Oui,
d'accord.
Au début.
D'accord.
Donc Freud, l'homéostasie, c'est d'arriver à trouver un équilibre en fait entre des forces qui
s'opposent à l'intérieur de nous.
Voilà, et donc du point de vue psychologique, on peut dire, on va aider cet homme à prendre une décision pour qu'il arrive à faire le pas. Le logothérapeute, il va pas avoir cette vision-là. Il va proposer à la personne, il va lui proposer, d'explorer ce qui a été vécu dans sa vie de couple. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a été vécu dans toute cette histoire-là?
Il va demander de raconter, du coup.
De raconter, de repérer les beaux moments et aussi les difficultés et aussi les décisions qu'il a prises ou pas prises.
Pendant sa vie de couple.
Pendant sa vie de couple. Son épouse qui a eu des relations extra-conjugales, il a laissé revenir. Elle lui a pas demandé pardon, par exemple, et lui, il a rien exigé, il a rien posé. Voilà. Regardez les décisions qu'il a prises, ou pas prises. Regardez ce qu'il y a de la valeur dans ce qu'ils ont vécu avec leurs enfants. Regardez aussi ce qu'ils n'acceptent pas.
Oui.
En fait, le regard, ça va être un regard sous l'angle de la liberté et de la responsabilité. Comment il a usé de sa liberté? Comment il a exercé sa responsabilité?
D'accord.
Et puis ensuite, on regarde les possibilités pour aujourd'hui. Quelles possibilités vous avez aujourd'hui? Une question importante, ça peut être, est-ce qu'il y a une troisième voie? Parce que des fois, on dit, soit je fais ça, soit je fais ça, et on est à l'aise avec aucune des deux. Est-ce qu'il y aurait une troisième voie? Un coach fait ça aussi. Je ne sais pas si tu le savais, Daniel Guilbeault.
Oui, tout à fait.
Elle disait, est-ce que tu envisages une autre possibilité? C'est puissant comme question. Et donc, la personne cherche et en fait, elle... elle peut décider ce qu'elle va, elle peut choisir ce qu'elle va décider maintenant. C'est-à-dire non pas qu'est-ce que je choisis définitivement, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je vais choisir pour faire le premier pas. Alors, en fait, le logothérapeute, il ne va pas aider la personne à être confortable, parce qu'il pourrait lui dire, je vais vous aider à prendre vos décisions.
Oui.
En fait, il va plutôt l'inviter...
Sauf que ça ne serait pas très...
C'est pas très juste, quelque part.
Oui, je pense que ça ne serait pas juste.
Ça ne serait pas juste, parce que la personne ne cherche pas ça au plus profond d'elle-même, en fait.
Oui, bien sûr.
Et donc, il va l'aider à exercer sa responsabilité, à décider la personne qu'il veut être, en fait.
Oui.
Qu'est-ce que je veux faire ? Et en fait, il n'y a pas de vie de couple idéale. Même s'il va avec cette autre femme, en fait, il y aura aussi des difficultés.
Bien sûr.
Dans les 6 premiers mois, dans les 3 premiers mois, dans quelques mois, c'est normal que ça se passe bien. Enfin, dans notre vie de couple, ça se passe toujours bien au début. Et donc, ça va être quelle décision je vais prendre maintenant pour que la personne soit plus libre.
Voilà. C'est-à-dire l'idée, c'est d'y aller petit à petit, morceau par morceau, en quelque sorte. L'idée, c'est pas de lui dire bon alors vous quittez votre femme ou pas, c'est aujourd'hui là maintenant.
C'est d'abord de regarder ce qui a été vécu en fait, de s'imaginer ce qui va se passer, mais d'abord de regarder la réalité, la réalité concrètement, qu'est-ce qui est.
Et de manière très pratique, ça se fait en combien de séances qu'un travail comme ça?
Alors, je dirais qu'un travail comme ça, ça peut se faire en 15 séances, peut-être.
D'accord, ouais.
Ok.
Je comprends, parce que c'est...
Oui, c'est un gros travail, bien sûr.
Et puis, on va inviter la personne. Alors, en fait, là, ça s'inspire d'une méthode qui s'appelle la biographie thérapeutique, qui, elle, est plus longue. Mais c'est cette approche-là de regarder la réalité, vraiment. Et puis, de découvrir la personne qu'on est, en fait. La personne qu'on est, les aspirations profondes qu'on a à travers cette exploration. Okay. Il y a des fils rouges, par exemple. Vous voyez, moi, j'ai fait ce travail de biographie thérapeutique. Je le savais avant, mais c'était apparent. Le fait de chercher, le fait d'aider, la musique, la spiritualité. Il y a des choses qui reviennent tout le temps.
En fait, finalement, tu te mets devant les yeux ce qui est là, ce qui est un peu inconscient ou ce qui est quelque chose qui est autour de toi, mais que tu n'as pas...
T'as pas saisi, quoi.
Ouais, verbalisé. Et finalement, le logothérapeute, il t'aide à le verbaliser.
Et à te voir comme une personne libre. C'est-à-dire à te voir comme quelqu'un qui a exercé sa liberté. Et donc... Oui. Quand tu as fait le récit de ton histoire, quand tu as écrit ton histoire, tu es plus capable de l'inventer.
Ok.
Plus capable d'inventer la personne que tu veux devenir. Tu sais plus qui tu veux devenir, es et qui tu veux devenir.
J'ai encore une petite dernière question sur la pratique et puis je pense qu'après on fera une deuxième pause musicale. Tu disais là que ça durait à peu près, par exemple pour ce cas-là, une quinzaine de séances. C'est tous les combien? Enfin, il y a une règle.
Le rythme, grosso modo.
Ouais, voilà le rythme des séances.
Pour une personne comme ça, je proposerais une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Je pense qu'une fois tous les 15 jours, ce serait mieux parce que ça laisse le temps,
de
mûrir un peu,
de cheminer entre deux séances.
Ok.
Mais il y a des moi, par exemple, quand j'ai demandé à être accompagnée, je la voyais tous les 2 ou 3 mois.
Ah ouais ?
Ouais.
Ah oui, c'est plus long du coup.
Mais c'était parce que je n'avais pas un problème à résoudre. J'avais à cheminer. Elle me donnait des bouquins. Elle me dit, tiens, vous pouvez lire ça. Voilà.
OK.
Il faut avoir le temps de le lire, etc.
En fait, chacun... Comme je disais, il n'y a pas de règles.
Ouais, ça dépend beaucoup du cas. Bon, en tout cas, effectivement, c'est plus clair, je trouve, de comment ça se déroule. On est parti, Jean-François, pour une deuxième pause musicale.
Allez, c'est parti.
M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot et bon bec fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler. parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et les vrais roudoudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants et les Mistral gagnants.
Galade.
Les couleurs du monde. Auditrices et auditeurs de Calade, nous sommes toujours dans l'émission Couleurs du Monde en compagnie d'Hervé, qui est logothérapeute. Et nous avons écouté à l'instant une chanson de Renaud qui s'appelle Mistral Gagnant. Est-ce que tu peux nous dire, Hervé, pourquoi tu as choisi cette chanson?
Oui, cette chanson, j'y ai pensé lorsque j'ai pensé à la préparation de cette émission et je trouve qu'elle illustre les trois... ce que Viktor Frankl appelle les trois avenues principales pour chercher le sens. Mmh. Il y a trois avenues principales qui sont les valeurs d'expérience, ce que nous recevons de la vie, l'expérience de la beauté, l'expérience de la culture, l'expérience de l'amour.
Okay.
Donc, quand il dit « à m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi », on imagine personne qui est juste dans qui savoure la présence.
La présence de l'autre.
De l'autre.
Tout à fait.
Et entendre ton rire, c'est pareil. Enfin, ce papa qui est émerveillé de rire de cet enfant, ça nous parle comme on est parents.
Bien sûr.
Donc ça, c'est les valeurs d'expérience, les valeurs de vécu, les valeurs d'expérience. Il y a les valeurs de création, c'est-à-dire ce qu'on apporte à la vie.
D'accord.
Un ingénieur va construire un pont, compositeur comme Renaud va faire une chanson.
Ouais.
Donc ça c'est ce qu'on apporte à la vie. Quand on travaille notamment, on est dans
les valeurs. C'est notre contribution finalement.
Et puis il y a la troisième famille de valeurs, c'est les valeurs d'attitude. Alors la valeur d'attitude, c'est l'attitude qu'on choisit devant la souffrance inéluctable. Donc c'est une valeur élevée, rare. On a peu l'occasion de la vivre, mais elle existe quand même. Parce que si elle n'existait pas, il y a des situations qui n'auraient aucun sens. Des situations de souffrance extrême, comme il a vécu dans les camps de concentration, qui n'auraient aucun sens. C'est-à-dire que la personne, elle est réduite à ne pas être humaine, en fait.
Ouais.
Et donc, dans ces circonstances extrêmes, il y a toujours la possibilité de l'attitude qu'on va choisir par rapport à ce qui nous arrive.
Ok.
Voilà.
Ouais.
Alors je me suis dit, Renaud, là, dans ces cas-là, cette chanson, est-ce que je peux le faire? Je dirais que quand même, Renaud, c'est un révolté. Dans la chanson, le bon temps qu'est mort et je m'en fous. Donc en fait, il est assez pessimiste, Renaud. Mmh. Mais il choisit quand même de vivre. Il se suicide pas.
Ouais.
Et pourquoi est-ce qu'il vit? Il choisit une attitude qui fait qu'il continue à vivre et il continue à chanter. Mmh. Voilà.
Ouais.
Donc, Le Combat Ordinaire, je ne sais pas si vous connaissez la bande dessinée.
Bien sûr.
Le Combat Ordinaire.
Je trouve que cette expression-là, le combat ordinaire, illustre bien.
C'est Stromae, c'est ça?
Non, c'est Larsenet.
C'est Larsenet, c'était l'un ou l'autre. J'adore Larsenet aussi.
L'expression, voilà. Alors, il y a des situations extrêmes, mais nous-mêmes tous, nous sommes des héros ordinaires, en fait, par l'attitude qu'on choisit, par rapport à des choses que l'on ne choisit pas.
Bon.
Voilà, donc
merci Hervé.
Cette chanson illustre les trois valeurs d'attitude.
Super.
Comme ça, j'ai gagné du temps sur ma présentation.
Alors oui, parce qu'on va passer à la dernière partie de l'émission.
Et qu'il nous reste plus que 5 minutes pour
cinq minutes, tu vas nous dire Hervé, la logothérapie pour qui et pour quelle pratique, pour quelle problématique.
Voilà. Alors, je vais répondre d'abord pour qui.
Pour toute personne, non ?
Pardon ?
Pour tout le monde ?
Oui, ouais. Tout à fait. Ouais. Merci. Exactement, t'as bien compris, Jean-François. Une bonne note pour Jean-François.
Merci.
Pour toute personne qui croit qu'elle a une marge de manœuvre dans sa vie. Mmh. Voilà. Toute personne qui est à la recherche de sens. Et que cette recherche de sens ne laisse pas tout à fait tranquille.
D'accord, oui.
Voilà. Y a des moments dans la vie où la question se pose de manière plus cruciale.
Plus franche. Ouais.
Plus franche, oui, ouais. C'est ça. Un changement important, une rupture, le décès d'un proche, la perte d'un emploi, enfin les accidents de la vie, ouais. Voilà, qui peuvent nous dire, mais en fait, comment je continue ?
Ouais.
Donc là, elle se pose pour des personnes comme ça. Deuxième situation, la frustration existentielle des personnes qui vont ressentir un ennui. Ma vie n'est pas intéressante. Mmh. Des personnes qui vont apparemment avoir une vie bien,
oui.
Mais finalement,
ils se sentent pas satisfaits, en fait.
Ils perdent le sens, quoi.
Ouais.
C'est ça. Ouais, okay. Donc, on parle de frustration existentielle et ça peut même aller jusqu'au vide existentiel. Donc, la frustration existentielle, elle est normale. Enfin, ça veut dire qu'on est humain et qu'on est en quête de sens. La vie existentielle, c'est pathologique, ça peut avoir différentes formes comme la dépression, comme l'agressivité ou comme les addictions. Moi, je vais aider la personne dans sa recherche de sens, mais s'il y a une addiction, je vais la diriger vers une personne
addictologue, spécialisée. Ou quelqu'un qui spécialise, bien sûr.
Et la dépression, c'est pareil, je vais pas... Je peux l'accompagner, mais s'il a besoin de médicaments...
Il faudra
bien enrôler derrière.
Alors, en sachant qu'un tranquillisant, c'est pas ça qui apporte la paix intérieure. Un tranquillisant, ça donne... les moyens.
Ouais, c'est une béquille, en fait, le temps de travailler sur soi pour s'en sortir.
Pour aller mieux. Ouais. Mais ça peut être en accompagnement, c'est-à-dire que ça peut, c'est même bien, je trouve, d'avoir les deux, le psychiatre ou le psychologue, et puis le logothérapeute qui va aider la personne à trouver sa boussole intérieure et à savoir pourquoi est-ce qu'elle veut continuer à vivre.
Oui, bien sûr.
Un trouble psychique aussi, ça peut... Alors là, pour le coup, là, il y a vraiment... Combien de minutes ?
Deux.
Donc là, pour le coup, je peux venir que en accompagnement, mais pas. Je peux pas. Voilà.
Tu peux pas soigner, mais par contre, tu peux apporter quelque chose en plus qui pourra aider la personne.
C'est la différence entre le cure et le care. C'est-à-dire que je soigne pas, mais je prends soin.
Ok.
Et puis des personnes qui ont un choix important à faire. C'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Voilà. Donc,
d'accord.
On va aider la personne
à choisir.
À choisir. Avoir un interlocuteur, en fait. Rien qu'avoir un interlocuteur.
Ça aide beaucoup.
Ça aide.
Bien sûr.
Voilà. Et donc, il reste une minute pour parler des méthodes. Il y a deux inspirations pour la méthode. C'est l'autotranscendance et l'autodistanciation. Je vais aller très vite.
Voilà, bref.
L'autodistanciation, c'est par exemple... à une personne qui a 30 ans, de dire vous serez comment à 80 ans ? Qu'est-ce que vous direz sur votre vie à 80 ans ? Et là, la personne, en fait, elle va parler de ce qu'elle souhaite.
Eh oui, bien sûr.
Et donc ça, c'est l'autodistanciation. Je prends de la distance par rapport
à mon présent.
Oui, à mon présent. Ouais, okay. Et puis l'autotranscendance, elle s'appuie sur le fait que Viktor Frankl et Kierkegaard qui dit que la porte du bonheur s'ouvre vers l'extérieur. Elle ne s'ouvre pas vers l'intérieur. C'est-à-dire que la personne, elle va accomplir le sens... en s'ouvrant vers l'extérieur, pour une cause ou pour une personne. On va inviter la personne à ouvrir le regard, à élargir le regard et regarder à quoi elle est appelée. Non pas ce qu'elle a envie de faire, mais qu'est-ce que la vie attend d'elle.
Mais on en revient à la légende personnelle, je suis désolée, il y a quand même un truc.
Donc, je ne sais pas si...
C'est super.
Tu as bien répondu. Ouais. Et il nous reste une minute pour conclure. Donc, on te remercie déjà pour ces éclairages très, très instructifs sur la logothérapie. On voudrait bien, du coup, parce que j'imagine nos auditeurs et nos auditrices, peut-être, voudraient pouvoir te consulter ou en savoir un peu plus.
Comment on fait pour venir te voir
Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment on peut te trouver ?
Alors, je suis à Villefranche le vendredi toute la journée, le samedi matin jusqu'à 13h. 13h, mm-hmm. rue Antoine Arnault.
D'accord. Voilà.
J'ai un site qui n'est pas tout à fait encore opérationnel, mais qui le sera bientôt. Ça s'appelle découvrirlespossibles.fr.
D'accord. Ouais. On mettra tout ça dans le podcast et on les ajoutera même quand ce sera concrétisé.
Voilà, vous prenez rendez-vous et puis... déjà,
je peux donner ton nom de famille du coup ?
Oui, oui. Ah,
c'est Hervé Bruno.
Ouais.
Voilà pour les personnes qui souhaiteraient.
Bruno, B-R-U-N-E-A-U.
Merci.
Et tu voulais nous parler d'un colloque aussi, d'un petit projet.
Ou alors on le mettra sur le site.
Bon, vas-y, tu peux le dire.
Donc, colloque de logothérapie le 15 novembre. Le dernier, il a eu lieu il y a 6 ans. Donc,
d'accord. C'est à Paris, c'est bien ça ?
Oui. Comment l'élan de la logothérapie.
On mettra sur le site les informations complémentaires vers ce colloque.
L'élan de la logothérapie pour faire face aux souffrances de notre temps.
D'accord.
Ce sont des logothérapeutes, une dizaine d'intervenants sur la journée qui vont présenter leurs pratiques.
Ok.
Donc destinés aux professionnels, mais aussi au grand public qui découvriront la logothérapie.
Et ben, c'est super. Merci beaucoup, Hervé.
Merci,
et puis Knock, avec Frank Bonnet, que la radio connaît, on va faire une marche sur les pas de Viktor Frankl.
Okay. Ah, très bien.
Voilà, le 12 octobre.
Très bien.
Donc, prochainement.
Il faut se connecter, il faut se mettre sur l'appli.
L'appli Knock.
L'appli Knock. Ok, très bien.
C'est caca. Et moi, je vous remercie pour vos questions.
Merci beaucoup, Hervé. Merci, Jean-François, auditeur et auditrice de Calade. À la prochaine pour Les Couleurs du Monde.
Calade. Les Couleurs du Monde.
Histoire.
Pensée.
Culture.
De Villefranche à Tataouine.
Sur le 100.9 et radio-calade.fr.